Cause à effet, le magazine de l'environnement.
La grande distribution aurait-elle un avenir écologique et durable? C'est la question que nous avons choisi de traiter aujourd'hui avec notre invité, un homme qui s'interroge sur l'avenir de la grande distribution et sur le « manger mieux » et le « consommer moins ». Devenu consultant et conférencier, il porte un regard sans phare sur l'évolution de la consommation des Français et sur le besoin croissant d'une alimentation plus soucieuse de l'environnement, plus respectueuse aussi du travail des agriculteurs et des éleveurs, et plus consciente de la santé des hommes et du vivant. Aujourd'hui, la voie est libre avec vous, Serge Papin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien président de Système U, je précise que vous étiez donc à la tête de Système U de 2005 à 2018. Vous avez été coprésident de l'atelier 5 des États généraux de l'alimentation, initiateur d'Osons Demain, un manifeste des chefs d'entreprise en faveur d'une transition écologique en France et qui rassemble plus de 500 signatures, et auteur notamment, on peut le dire, avec Perico Legas, du livre « Du panier à l'assiette » paru chez Solar. Vous êtes notre invité en public au Salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris, une émission qui prend place aussi dans le rendez-vous mensuel que nous vous proposons depuis la rentrée avec nos partenaires de la coalition hashtag Sauver le Présent, à savoir Le Parisien, Combini News et la revue Ouzbek Erika. Et ce mois-ci, le thème qui nous rassemble est bien sûr l'agriculture. À mes côtés, Émilie Torjmen du journal Le Parisien, bonjour.
Bonjour.
Et Blaise Mao, rédacteur en chef du média Ouzbek Erika, bonjour.
Bonjour.
Et bien sûr, bienvenue au public présent aujourd'hui dans notre émission concoctée toujours par Anaï Morales et avec l'aide de nos complices Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, sans oublier le service de la documentation d'actualité de Radio France. Et puis bien sûr, cette émission est toujours réalisée par Alexandra Malka qui apprécie chaque année ce rendez-vous. Et cette émission, donc enregistrée en public au Salon de l'agriculture de Paris, grâce aux équipes de Radio France, Dominique Allard, notre chargée de production, Yves Lehors et Martin Troadec à la technique, sans oublier Virginie Noël et Véronique Lesage. Serge Papin, vous êtes un homme d'un terroir, la Vendée, et enfant d'une famille aussi de commerçants, épiciers. Est-ce que cet ancrage familial et régional explique peut-être votre parcours ?
Moi, j'ai représenté une génération à la tête de cette coopérative dans un métier que je ne voulais pas faire. Et voilà, parce que je trouvais que le métier d'épicier, c'était trop de disponibilité. J'ai vécu mon enfance dans cette petite épicerie. Et puis finalement, quand il y a eu cette espèce de modernité incarnée par la grande distribution qui prenait la place des petites échoppes et où on ouvrait dans les pays ruraux, hein, en Vendée, en Bretagne, des petits supermarchés, ils faisaient 400 mètres carrés à l'époque, hein, bon, beaucoup plus petits qu'aujourd'hui, ben on avait l'impression de rendre accessibles des produits au plus grand nombre. Ben, je me rappelle de ce contexte, parce que vous savez, la grande distribution, elle était le reflet d'une époque. Et le commerce, au fond, il n'est que le reflet de l'époque. Et on était dans une période où les gens avaient envie de consommer plus. Alors qu'on voit bien, 30 ou 40 ans après, que du coup, on veut plutôt aller vers le consommer mieux. Et on se rend bien compte que tous les excès de cette consommation, et en effet, la grande distribution a permis de déployer des produits de grande consommation où on fournissait des grandes familles qui remplissaient des grands placards dans des grands hyper, bah ça, on est en train de tourner la page. Et donc, on va plutôt vers du mieux. Vous avez parlé de mon livre avec Perico Legas. Je rappelle, et c'est un des livres dont je suis le plus fier, en 2009, avec Jean-Marie Pelt, j'avais écrit ce livre qui s'appelait « Consommer moins, consommer mieux ». Donc on voit bien qu'on est désormais à une espèce de bifurcation.
Alors justement, qu'est-ce qui vous a fait changer peut-être vos pratiques dans ce domaine professionnel? Est-ce qu'il y a eu des moments importants? Je sais qu'il y a eu le décès de votre père mort à 59 ans d'un cancer. Vous parlez de vos rencontres, Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Claire Nouvian. Qu'est-ce qui vraiment vous a sensibilisé et vous a amené à imaginer l'hyper autrement?
Quand on met en marché des produits alimentaires, on doit être conscient de ce que l'on fait. Et quand j'ai pris la présidence de Système U, je voulais exactement savoir, avec la marque hein, avec notre marque, qu'est-ce qu'on mettait en marché. Et en effet, j'avais été sensibilisé, j'ai perdu mon père, il avait à peine 59 ans, il a eu une vie totalement, enfin sans excès, et je trouvais ça profondément injuste qu'il parte si tôt. Et donc je me suis intéressé un peu à pourquoi il y avait un développement de ces maladies dites pudiquement de civilisation qui progressent toujours d'ailleurs.
Liées aussi, on le sait aujourd'hui, à l'alimentation.
Et pour partie, en effet, liées à l'alimentation. Donc, pas que, hein, mais voilà. Et donc je me suis dit, ben, tiens, est-ce qu'on peut pas, au fond, essayer de prendre des responsabilités nouvelles. On n'est pas que des commerçants qui mettons en marché des produits qui sont fournis par un industriel. Mais prenons nos responsabilités, nous aussi. Et j'avais fait faire une étude à l'époque, on était en fin 2004, par un ingénieur agro qui s'occupe d'ailleurs de Ferme France aujourd'hui, c'est Maximilien Roer. Hein, il était ingénieur. Je lui ai dit, écoute, donne-moi la liste des substances qui ont un inconvénient, soit parce qu'elles sont toxiques ou controversées. Il m'a fait une liste de 90 substances. Donc qui vont du parabène, au phtalate, au bisphénol, aux dioxines de titane, l'aspartame, l'huile de palme, etc. 90. J'ai dit, bon, écoutez, c'est simple, on va se débarrasser de ces substances, et au moins dans notre marque, on va les enlever. Alors évidemment, je me suis heurté à l'époque, on dit, mais attends, de quoi tu t'occupes, c'est pas notre métier, nous on vend ce qui se vend, etc. Donc, ouais, on a tenu les positions, et c'est devenu un projet d'entreprise, et finalement, je me suis aperçu qu'il y avait une fierté et même un sentiment d'appartenance, je pense notamment aux collaborateurs qui travaillaient sur ces sujets-là. Et finalement, c'est devenu un espèce de projet d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est la ligne de conduite de U. Et donc, on voit bien qu'on peut inverser les choses, les transformer et essayer de réconcilier. Vous savez, on a trop été dans le rapport de force avec la santé, la planète, la consommation. On était dans une espèce de loi du plus fort. Et finalement, je me suis dit, l'avenir est à la médiation, est à la réconciliation. Et trouver des produits qui réconcilient avec la santé, avec la planète, avec la rémunération des agriculteurs, avec l'emploi, eh ben, c'est sans doute mieux. Et ça nous a permis de créer un nouveau leadership. Voilà, de construire un nouveau leadership vis-à-vis des grands groupes qui, eux, étaient plutôt... sur la puissance.
Alors il faut peut-être préciser pour nos auditeurs que Système U et Intermarché, ce sont vraiment ces entreprises qui sont indépendantes.
C'est indépendant, c'est coopératif. Système U est né en 1894 à Savenay, en Loire-Atlantique, de la souffrance de petits épiciers qui n'allaient pas s'en sortir et qui ont formé la première coopérative qui s'appelait le Pain Quotidien.
Donc ce qui permet peut-être de faire évoluer plus facilement, oui. Sans moins de verrous.
Oui, parce que vous parliez tout à l'heure des territoires. Les magasins U, les super U, ce sont des gens des territoires. Ils participent, ils contribuent à la vie des territoires. Je dirais même qu'ils s'impliquent parce qu'ils y ont intérêt. Bien sûr, on est en train de vivre, par exemple, une mutation sur les métropoles. Bon, plus le déséquilibre entre les petites villes et les métropoles va grandir, plus ceux qui sont implantés dans les petites villes vont en souffrir. Donc ils ont intérêt, eux, à être des espèces, pour reprendre l'expression, des premiers de cordée de la réterritorialisation. Voilà, et c'est ce qu'ils font. C'est ce qui explique aussi leur regard sur les liens qu'ils peuvent avoir, notamment avec le monde agricole.
Alors vous avez pris part aux états généraux de l'alimentation. Quand on dit la grande distribution aurait peut-être un avenir écologique et durable, est-ce que ce n'est pas antinomique, production industrielle et durabilité? Parce que cette loi Egalim, hein, qui a été promulguée le 1er novembre 2018, à l'issue donc de ces états généraux, devait être une solution, devait écrire une nouvelle page. On se rend compte que aujourd'hui les agriculteurs peinent à voir les effets sur leurs revenus.
Oui, alors, écoutez, on a le président de la République, via son ministre, qui était à l'époque Stéphane Travert, nous donne 30 jours pour résoudre un problème qui dure depuis 30 ans. C'est-à-dire, on détruit de la valeur et on casse l'appareil agricole en essayant de faire porter une guerre des prix sur le maillon le plus faible. Moi, je suis très conscient de ça, je le vis. Je me suis battu contre ça depuis au moins 2007, date de la mise en place de la loi de modernisation de l'économie qui était là pour faire baisser les prix. Donc, on arrive à trouver un compromis. Toutes les parties prenantes sont là, représentants de la distribution, représentants de la transformation, représentants du monde agricole, représentants de la consommation. Tout le monde est d'accord pour dire oui, il faut mieux rémunérer les agriculteurs, ce d'autant plus qu'on leur demande de faire plus de qualité. Donc on ne peut pas dire aux agriculteurs, vous allez développer la qualité, en même temps, vous payez moins cher. C'est un peu compliqué. Et donc, pour arriver à ça, on donne des responsabilités à la distribution, on augmente les prix des produits les plus connus, c'est-à-dire en gros on augmente le prix du Nutella, du Coca-Cola, etc. On augmente le, pas pour être trop technique, le seuil de revente à perte, c'est-à-dire on n'a plus le droit de vendre ces produits à zéro de marge, mais ils doivent être au moins à 10% de marge, ce qui permet de créer une marge de manœuvre pour mieux payer les agriculteurs. Sauf que on n'accompagne pas, comme c'est souvent le cas, donc on prend, le président de la République fait un beau discours à Rungis en 2017, où il dit, oui voilà...
De belles ambitions, payer le prix juste aux producteurs, oui. Renforcer la qualité sanitaire, nutritionnelle et environnementale, assurer le bien-être animal, réduire la place du plastique, etc. etc. Donc les ambitions étaient formidables, beaucoup d'espoir.
Voilà, alors, et on passe après le dossier aux parties prenantes concernées. Sauf que, si c'est simplement sur la bonne volonté que des transformateurs vont mieux payer les producteurs et que les distributeurs vont mieux payer les transformateurs pour qu'eux-mêmes payent mieux, ça ne marche pas comme ça. Il doit y avoir, et je suis content que vous me posiez cette question parce que c'est encore le moment de le faire, il doit y avoir des mesures d'accompagnement. Il faut s'assurer de ce qu'on pourrait appeler la traçabilité, parce que je sais qu'aujourd'hui, un certain nombre de distributeurs, par exemple, sont d'accord pour payer mieux avec un prix de référence, mettons le lait, pour prendre un exemple.
Les produits laitiers s'en sortent légèrement mieux.
Légèrement, parce que quand Lactalis, par exemple, ou Bell, ou Savencia négocient avec Carrefour, Leclerc ou U, ils partent d'un prix de référence payé en production qui va être, mettons, de 35 centimes, alors qu'il était que de 29 centimes avant les EGA, quand même. Hein. Donc c'est déjà un petit progrès. Eh bien, ils ont mandaté un auditeur, je crois que c'est Price, donc un grand cabinet privé d'audit, mais qui a l'assentiment de toutes les parties prenantes et qui s'assure bien que la négociation qui s'est passée là-haut, que l'argent aille bien jusqu'à la production. Donc pour moi, c'est le modèle. Et il faudrait que les pouvoirs publics, puisque dans son discours de Rungis, le président de la République avait dit on donnera des moyens à l'Observatoire des prix et des marges, par exemple, ou à la DGCCRF, de contrôler que tout ça aille bien. On avait parlé de ruissellement jusqu'aux agriculteurs. Or, ça n'a pas été fait. On est resté l'arme au pied. On est resté au milieu du guet. Il est temps que maintenant, on prenne nos responsabilités, que ceux qui ont écrit la loi prennent aussi des mesures d'accompagnement. Je rappelle que cette loi, elle est normalement faite pour 2 ans et on doit en observer les résultats et peut-être la remettre en cause. Eh bien, ce qui se passe pour le lait et qui s'est passé que pour 1 ou 2 grands fournisseurs, il faudrait qu'on le modélise à l'ensemble du dispositif commercial entre agriculture, transformation et distribution. Et vous verrez que ça porterait ses fruits. Mais on a quand même, moi je suis quand même assez optimiste parce qu'on a reconstruit un modèle qui permet de créer de la valeur. Il manque peu de choses pour qu'on arrive au
d'accord,
bout.
En tout cas ce n'est pas une question de temps pour ressentir les effets. Émilie Torjmène.
En ce qui concerne la valeur environnementale, ce que posait comme question Aurélie, c'est aussi est-ce que la grande distribution qui veut faire consommer, peut-être consommer plus, n'accélère pas des changements qui vont à l'encontre de ce qu'il faudrait pour la planète ?
Oui, alors, vous savez que je disais tout à l'heure que le commerce est le reflet de l'époque. Je pense que la grande distribution est consciente et lucide aussi sur ces sujets-là, et je dirais même les grands groupes. Alors, il y a un peu de greenwashing, sans doute, mais malgré tout, il y a une détermination à aller vers des circuits courts. Quand j'ai quitté Système U en 2018, on avait fait une belle réunion, un beau congrès, et il y a un journaliste qui était là devant mes collègues qui me dit « Bon alors, qu'est-ce que vous feriez si vous preniez un magasin et que vous aviez 30 ans ?» Et je dis « Vous savez, si j'avais 30 ans et que je reprenais un super aujourd'hui, j'aurais une ferme à côté pour pouvoir vendre, alors c'est une image symbolique, les produits de ma ferme dans mon magasin directement. » Et je crois que la grande distribution, elle a intérêt à repartir sur les circuits courts, à aller vers des produits plus sains, parce que, au fond, c'est la demande. Et vous savez, elle s'adapte. On est en train de tourner la page des produits qu'on achetait à l'autre bout du monde, au motif qui défaisait les saisons, etc. On revient à une lucidité, à une conscience que manger local, bio, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon aussi pour l'emploi local. Et donc ça, c'est en train de changer parce que qu'est-ce qui fait changer les choses ? C'est l'opinion, c'est au fond la demande des clients, c'est eux qui font changer.
Blaise Mao ?
Oui, j'avais une question sur votre... On est au Salon de l'Agriculture, sur votre vision du modèle agricole actuel et futur. Il y avait une étude de l'IDRI fin 2018 qui portait sur l'agroécologie, le modèle agroécologique, en disant qu'il était possible de nourrir 530 millions d'Européens en 2050 avec une production 100% agroécologique, donc en gros sans intrants chimiques, et respectueuse des cycles naturels. D'autres études qui disent que c'est même possible à plus longue échelle, à l'échelle mondiale. Est-ce que vous pensez, vous êtes un lecteur, vous le disiez tout à l'heure, de Pierre Rabhi, vous appréciez sa pensée, lui c'est un des grands défenseurs de l'agroécologie. Est-ce que dans 20 ans, dans 30 ans, l'Europe, le monde peut être entièrement converti, sortir de l'agriculture intensive et être converti à l'agroécologie ?
Tout en nourrissant la planète.
Oui, on ne peut pas faire autrement. Il est aujourd'hui prouvé scientifiquement qu'il y a un lien entre l'excès de pesticides, d'herbicides et des maladies. Donc il faut qu'on s'affranchisse de ça. Cette utilisation massive des intrants chimiques était le reflet d'une époque de production intensive. On a demandé à l'agriculture de nourrir l'Europe. Depuis, les pays européens se sont organisés. Elle ne peut plus lutter contre d'autres pays qui sont aussi compétitifs en production intensive. Il faut désormais, je pense, que l'agriculture française, et le mouvement, me semble-t-il, est en route, soit référente en termes de qualité. Donc les choses avancent, je vois, on peut dire peut-être pas assez vite. Moi j'ai participé avec une grande coopérative qui s'appelle Terena, à un projet qui s'appelait, alors c'est une espèce d'oxymore, l'agriculture écologiquement intensive.
C'est-à-dire, c'est possible ça ?
Oui, parce que évidemment ça dépend quel regard on porte. Nous on est issus de spécialisation territoriale, c'est-à-dire on faisait du cochon en Bretagne, des carottes dans les Landes, etc. Donc il faudrait sans doute
renouer avec la diversité. C'est la permaculture avec... aussi.
Voilà, et ce que je voulais citer, la permaculture est très productive, paradoxalement, mais il faut qu'on s'y intéresse. L'agroécologie, je me souviens de discussions avec, j'avais une relation plus intime, si je puis dire, avec Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll a poussé les feux à l'époque de l'agroécologie. Donc ces mouvements-là sont en route, je vois, il y a des jeunes agriculteurs qui sont partis là-dessus. On est à une bifurcation. Ce qu'il ne faut pas, c'est pointer du doigt. C'est-à-dire, c'est pas chercher des coupables. Mais il faut essayer d'amener d'autres solutions, porter d'autres regards. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de réconcilier et pas de stigmatiser. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et je trouve que ça serait sympa qu'on ait des gens qui soient un peu comme ça... un peu médiateur.
En sachant que consommer mieux, c'est aussi consommer moins. Et ça, que ce soit la théorie de Pierre Rabhi ou d'autres, oui. C'est aussi cette notion de décroissance. Parce qu'on est dans une ultra-consommation. Donc, consommer mieux à un prix peut-être un peu plus élevé, c'est pas forcément augmenter le prix du caddie parce qu'il faut consommer moins aussi.
Oui, écoutez, on a un problème, y compris en France. On est en train de s'américaniser. C'est-à-dire que on a, je crois que c'est si on fait les surcharges pondérales et l'obésité, c'est un Français sur deux, avec le diabète qui progresse et tout ce qui va avec. Donc, on voit bien que on a besoin, sans doute, de réduire de ce côté-là. On s'en portera mieux. C'est pour ça que j'aime bien la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Et donc, il faut faire aussi une lecture à l'envers de tout ça. Et si on prend, par exemple, l'élevage. Prenons l'élevage bovin. Moi, j'ai connu la période où on achetait la viande en carcasse. Hein, voilà, 3,50 € le kilo payé au paysan, au producteur. Il n'arrive pas avec 3,50 € à faire un boulot convenable. Donc, on s'est engagé sur ce qu'on appelle le cœur de gamme, les charolaises, les dons d'Aquitaine, etc. Les limousines, on a dit, OK, on va la payer 4,50 € pour que vous fassiez un bon travail, etc. Bon. On a signé, on s'est engagé. Je crois que l'accord a été reconduit avec
vos successeurs.
Voilà.
Qui continue la même politique développée.
Qui continue la même politique développée, absolument. Ça fait quoi ? Sur un steak de 150 grammes, ça fait 4 centimes d'euros de plus. Est-ce qu'il vaut mieux pas dire à nos concitoyens, manger un peu moins de viande ?
C'est-à-dire pas quotidiennement, l'ANSES voilà. Le recommande, hein,
voilà,
d'ailleurs.
Exactement. Et à ce moment-là, il va y avoir de la création de valeur aussi pour les agriculteurs. Ce qui s'est passé pour le vin, regardez le vin, la France consommait 3 fois plus de vin en volume il y a 30 ans. Et les viticulteurs se portaient très très mal. Là, on en consomme 3 fois moins, mais le vin, c'est plutôt des vins de qualité. Et les viticulteurs se portent mieux, et en plus, ils exportent. Parce que les produits sont de qualité. Donc il faut changer les choses, et sans doute qu'on a besoin, oui, alors, moi je pense qu'on a besoin de consommer moins, globalement, oui.
Alors vous parliez de la viande, l'élevage, allons sur ce terrain-là. On a bien vu ces derniers temps, en tout cas ces deux dernières années, une baisse de la consommation de la viande. Abattage, souffrance animale, baisse de cette consommation, peut-être pour des raisons de santé. Comment vous analysez les choses ?
D'abord, on est monté beaucoup trop hein, sur la consommation de viande. Hein. On voit bien avec tout ce que ça a comme inconvénient.
Et la question du bien-être animal qui ressort massivement.
Bien sûr. Ce que pointe L214, c'est, je trouve, alors parfois il y a des excès, je suis très prudent dans ce que je vais dire, mais ils font quand même progresser les choses en dénonçant. Parce que c'est pas possible de faire souffrir les animaux au moment où on les abat, etc.
En sachant que ça va aussi dans le sens de la demande des éleveurs. Les éleveurs ne sont pas pour la souffrance animale dans les abattoirs non plus.
Absolument. Moi, j'ai participé à un congrès de la Fédération nationale bovine il y a 2 ans. Eh bien, il y avait un groupe de travail sur la souffrance animale qui portait des conclusions, qui les ont exprimées devant l'ensemble de l'auditoire. C'était vraiment des engagements forts de la part des éleveurs. Donc, les choses là aussi avancent. Il faut que ça se paye un peu mieux, tout ça. Je citais les accords avec Terena sur le porc. On avait une case bien-être animal qui était rémunérée. Je crois que c'est 15 centimes ou 20 centimes d'euros. Comment aussi les animaux sont sur paille et pas sur béton. Enfin, parce que le bien-être animal, c'est pas que la souffrance au moment de l'abattage, c'est aussi la vie de l'animal. Hein. C'est important.
Émilie Tangemen.
Alors, pour la souffrance animale, payer mieux, c'est forcément une bonne chose pour les gens qui travaillent dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les abattages, dans le transport, comme pour les animaux. Après, une question qui n'avait pas été réglée par les Egalim, c'est aussi celle de la transparence et de la possibilité éventuellement de mettre des caméras dans les abattoirs. Ça n'a jamais été une demande de la profession, alors que beaucoup de consommateurs le réclament.
De toute façon, vous savez, avec ce monde digital, tout se sait. Donc je suis d'accord avec vous, il vaudrait mieux organiser les choses et ça permettrait là aussi de trouver des éléments de médiation, d'arbitrage, en ouvrant à la vision à tout le monde de ce qui se passe. Moi je suis d'accord avec cette remarque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais avec tous les collaborateurs d'une entreprise qui s'appelle Petit Navire. Et nous étions le lendemain de Cache Investigation, où il y avait des films qui passaient sur la tuerie des thons. Tous ses collaborateurs n'étaient pas du tout au courant. Je dis, mais comment ? Et donc, du coup, ça a fait prendre conscience. Ils ont mis en place un dispositif pour être au courant. Et les choses se passent beaucoup mieux de ce côté-là. Donc, je suis d'accord que la transparence est une vertu pour aller vers plus de convergence, de réconciliation.
Là. Donc, rappelons juste peut-être par rapport à la transparence, c'est vrai qu'il y a eu quand même une suite de crises sanitaires importantes. Hein, vache folle, lasagne à la viande de cheval, les OGM, les œufs au fipronil, on parle des nitrites, des additifs, des colorants conservateurs, l'huile de palme, etc. C'est vrai que cette demande de transparence est totalement dans l'air du temps, en tout
justifiée,
cas.
Justifiée, hein. Complètement.
Émilie Tangemen.
Est-ce que sur cette demande de transparence, on parlait des abattoirs, donc des producteurs, est-ce que la distribution et la grande distribution n'a pas son rôle ? Il y a une initiative qui est celle de Casino qui a été concoctée avec des associations contre la souffrance animale pour donner une espèce de note de bien-être animal. Est-ce que ce type de Nutri-Score bien-être animal, ça peut être une solution, en tout cas pour l'information ?
Je suis d'accord. Et puis, si les distributeurs ne le font pas et... moi, j'apprécie l'initiative de Casino. Le Yuka du bien-être animal va se faire. Yuka est en train de faire progresser. Regardez, il y a des enseignes qui sont engagées à dire « Bon, nous, on sera Nutri-Score vert et vert chez Yuka de tous les produits qu'on commercialise avec notre marque. » Voilà, c'est fantastique.
Et c'est vrai qu'on voit dans les rayons des personnes avec leur téléphone portable et qui scannent les étiquettes.
Exactement. Hein. Et ça va faire progresser. Regardez, il reste encore des produits cosmétiques dont les allégations sont encore en latin, avec des symboles, etc. C'est profondément anormal. Vous allez voir.
Et les termes scientifiques Yuka, et chimiques qu'on ne connaît pas.
Exactement. Yuka va se mettre sur ce terrain-là ou d'autres, hein, parce que d'autres arrivent aussi. Ça va obliger les marques.
Les produits ménagers aussi.
Les produits ménagers, bien sûr. Ça va obliger les marques, là aussi, à être beaucoup plus transparents. Moi, je me souviens, quand on a dit on enlève le parabène il y a 7-8 ans. Moi, je n'avais pas l'info avant, mais on me dit, écoutez, Serge, le parabène, chez les mamans, enfin les femmes enceintes, ça passe dans le placenta et ça peut rendre stérile les petits garçons. Bon, tant qu'on ne sait pas ça, une fois qu'on sait ça, est-ce qu'on peut dignement commercialiser des produits où il y a du parabène ? Donc on a dit non, on l'enlève, ce qu'on a fait, et des grandes marques de cosmétiques, au départ, n'étaient pas du tout sensibilisées à ça. Et même, je me souviens d'une discussion, on disait, mais oh là là, c'est pas urgent, tu t'embêtes, etc. Et ben, tout le monde a suivi. Et donc voilà, maintenant, c'est plus un sujet.
Même parabène. Si on trouve encore des produits avec du parabène. Serge Papin, quand vous nous parlez justement de vos actions, on pense forcément à vous, peut-être, qui étiez dans votre bureau de PDG et vous faites ce choix. Est-ce que c'est si facile ou est-ce qu'il y a des lobbies qui viennent frapper à la porte?
Il y a des lobbies qui viennent frapper à la porte. J'ai eu beaucoup de vents contraires. Je me souviens de quand on a décidé d'enlever l'huile de palme, parce que c'était plus là pour la déforestation de la forêt primaire plus que sur la toxicité du produit, bien que, juste pour vous donner un exemple, donc on prend la décision, on passe un film sur lequel on voit la mort des orangs-outans, qu'on s'était inspiré du film de Green de Gaëtan Roussel, où on ne peut pas faire autre chose que pleurer quand on voit ce film. Donc on s'engage, on fait le film, on a été attaqué par le lobby des palmistes. Et donc, on a eu des vents contraires.
Des procès ou pas?
Alors, l'huile de palme, on a perdu, pour cette raison-là, au tribunal de Paris. On a été obligé d'enlever le film. Et on a gagné en appel. Voilà, par exemple. Hein, donc, les lobbies,
sont présents.
Assez présents et assez puissants.
Émilie Tangemen et Blaise Mahou.
Oui, je voulais revenir sur la transparence. Nous, dans le cadre de hashtag Sauver le Présent, cette semaine, on s'intéresse à ce que beaucoup d'associations appellent des OGM cachés, donc des méthodes pour, en tout cas, transformer les semences et manipuler génétiquement certains produits. En ce moment, sur nos étals, on a des endives. La Confédération Paysanne compte que 80% de ces endives sont issues d'OGM cachés. Est-ce que la grande distribution peut faire quelque chose là-dessus?
Oui. Alors c'est anormal. Nous on avait pris un engagement de ne commercialiser aucun produit issu de semences OGM. Donc alors après on peut se faire avoir. Hein. Mais en principe il y a des contrôles, une traçabilité. Il y a ce qu'on appelle désormais la blockchain, qui permet par des systèmes d'information de vraiment savoir d'où vient le produit. Y compris parce que parfois, il y a des choses un peu masquées. Si vous avez des produits qui viennent du Brésil et qui sont mis donc avec OGM, et qui servent à nourrir les animaux, ça peut être aussi une espèce de masquage. Donc il faut, la grande distribution peut exiger là-dessus. Elle a des équipes pour le faire, elle a le pouvoir et la puissance pour le faire. Elle peut avoir cette exigence et s'engager vis-à-vis de ses consommateurs à ne commercialiser aucun produit issu d'OGM. Et honnêtement, elle tient assez bien la maison de ce côté-là, je crois.
Chez Système U, vous aviez interdit les produits issus d'OGM.
Oui.
Et ça veut dire
ça fait partie de notre cahier des charges.
Serge Papin, ça veut dire que vous avez enlevé de vos rayons des marques emblématiques?
Non. Nos produits, c'est-à-dire ce qu'on commercialise.
Bref, c'est vos produits,
oui,
de la marque.
De
voilà,
la marque.
Ouais, d'accord.
Après, c'est quand on commerce un fameux cola dans le siège aux États-Unis et qui a des produits dedans qui honnêtement sont pas terribles, hein. Je pense au colorant 150, hein. Vous savez qu'au poissage il est quasiment interdit en Californie ce colorant et qu'en France il est à deux ou trois fois
Mais là, la grande distribution, on ne peut pas enlever.
Mais non, on commercialise.
Alors là, sur ces OGM cachés, un des problèmes, c'est qu'ils semblent être très bien cachés, puisque même les producteurs ne sont pas toujours au courant qu'ils utilisent exactement ces variétés qui sont issues de techniques au nom barbare, CMS, VRTH, etc. Et j'en passe. Donc, effectivement, c'est traçable quand on fait des tests, mais est-ce que, à votre connaissance, chez U ou chez d'autres, on teste les produits pour savoir que...
Alors, ils sont pas, pour être franc, ils ne sont pas testés tous à 100%, mais il y a des services qualité conséquents. Et de manière aléatoire, ils peuvent l'être. Donc, si l'exigence, c'est de dire non aux OGM, y compris ce que vous appelez les OGM cachés, et qu'on s'en aperçoit, il peut y avoir aussi des retours pour les... ceux qui utilisent ça, qui peuvent être pénalisants. Donc la grande distribution, si elle s'engage, elle est obligée de mettre en place des moyens pour contrôler.
Donc là, vous parlez de si elle s'engage dans leur cahier des charges.
Exactement.
Est-ce qu'une labellisation, est-ce qu'un étiquetage à minima pour informer le consommateur, ce ne serait pas une solution?
Il faudrait d'ailleurs, je vois des patrons de grande distrib se sont engagés sur le fait de dire on veut avoir la liste totale des ingrédients en clair, y compris dans des produits comme les plats cuisinés où c'est pas obligatoire aujourd'hui. C'est souvent la norme européenne qui fait force de loi et plus permissive que ce qui se passe en France. Après, si un grand distributeur s'engage et le communique, eh ben, il faut qu'il ait... Alors là, du coup, ça lui donne une singularité aussi, hein, ça rassure aussi ses clients. Donc c'est un choix qui peut être gagnant aussi.
Serge Papin, on arrive à la moitié de notre émission. Nous allons découvrir votre choix musical. Vous avez choisi de nous faire écouter Félix Leclerc, Le Petit Bonheur. Il y a une raison spécifique ?
Ouais, je trouve que dans le contexte actuel, avoir des petites musiques un peu joyeuses comme ça, je trouve, puis il y a une forme de modernité dans les mots de Félix Leclerc, même si c'est une très vieille chanson.
Oui, même si elle traverse les générations,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, exactement.
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tendre dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons. C'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que sifflait ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
De cause à effet, c'est la suite de notre magazine de l'environnement sur France Culture, consacré aujourd'hui à la grande distribution et au mieux manger, moins consommer pour un avenir écologique et durable. Est-ce compatible ? Réponse avec notre invité Serge Papin, ancien président de Système U de 2005 à 2018, coprésident de l'atelier 5 des États généraux de l'alimentation. Il est aussi l'initiateur de Osons Demain, un manifeste des chefs d'entreprise en faveur d'une transition écologique en France et co-auteur notamment du livre « Du panier à l'assiette » paru chez Solar, écrit avec Perico Legas. Et avec nous, toujours nos deux partenaires de la coalition hashtag Sauver le Présent, coalition qui vous propose un riche dossier sur l'agriculture. Allez le voir sur nos sites respectifs et donc présente à mes côtés Émilie Torjmen du journal Le Parisien et Blaise Mao de la revue Ouzbek Erika. Voilà, on discute tous ensemble de ce nouveau pacte alimentaire et de consommation, un accord gagnant-gagnant, on espère, entre producteurs, consommateurs et distributeurs. Blaise Mao, je crois qu'il y avait la question aussi de saisonnalité qui vous intéressait.
Oui, la question des produits de saison qui intéresse surtout les Français. Carrefour a mené une expérience l'année dernière pendant 3 mois, dans 4 hypermarchés, dans tous ces magasins Carrefour Bio, de ne proposer que des fruits et légumes de saison. Expérience qui a été quand même assez saluée, mais critiquée aussi parce que du coup, le flou restait sur pas mal de produits quant à leur provenance. Est-ce que ce type d'initiative va dans le bon sens? Et est-ce que demain, si on se projette dans 5 ans, 10 ans, si on suit votre logique, une grande enseigne de la grande distribution peut s'engager à ne proposer dans tous ses magasins et dans tous ses hyper que des produits de saison.
Je pense que là aussi, il faut aller vers ça. Il faut revenir, de ce point de vue-là, à l'essentiel. Dans le livre avec Perico Legas, on dit même qu'il faut aller jusqu'à former les enfants à l'école pour leur apprendre la saisonnalité, d'où viennent les produits, comment on les cuisine, parce qu'autrement on s'en sortira pas. Il faut retourner à l'achat de saison, du produit de saison à la saison, et passer à la cuisine. Et dans ces cas-là, l'alimentation coûte pas très cher. Si vous achetez un produit de saison aujourd'hui de bonne qualité, c'est quoi ? C'est 2 euros le kilo. Si on prend des carottes, des butternuts, des choses comme ça, c'est 2 euros le kilo. Donc si vous 200 grammes, ça fait 40 centimes d'euros. Bon, il faut prendre le temps d'aller l'acheter. Puis il faut aussi passer un peu à la cuisine. Et si vous achetez, alors comme on est au salon d'agriculture, un porc fermier de bonne qualité, ça coûte 7 à 8 euros le kilo. Si vous en prenez 200 grammes, ça fait 1,60€, donc pour 2 euros, vous avez un plat équilibré, de bonne qualité et qui est accessible en prix. Mais ça présuppose d'avoir l'information, d'avoir la perception du produit de saison, comme vous le disiez, prendre le temps des achats, aller à la et passer un peu à la cuisine.
Les Français, ils sont prêts, je pense, si on les accompagne, oui. Mais du côté des enseignes, est-ce qu'une enseigne peut renoncer à proposer des fruits et légumes qui ne sont pas de saison ?
C'est un engagement qu'il faudra qu'elles prennent, et il faut aussi qu'on puisse avoir de la diversité et revenir à des légumes, ce qu'on appelle les légumes d'antan, les variétés, aussi des produits de saison, parce que on a tellement ces dernières années simplifié qu'on n'avait plus de choix, ce qui fait qu'il y avait aussi une ouverture à la saisonnalité en dehors de nos frontières. Alors que là, quand on replante des variétés, par exemple de tomates, à la saison, il y a 10-15 variétés de tomates. Prenez des carottes aujourd'hui, il y a une dizaine de variétés de carottes. Donc il y a suffisamment de diversification sur le produit de saison, et là, la grande distribution doit montrer l'exemple. Je pense qu'elle est en train aussi de le faire, là.
La saisonnalité, Serge Papin, elle doit aussi s'appliquer, ou elle devrait peut-être en tout cas s'appliquer à la pêche durable. Vous êtes né à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, port de pêche. Est-il vrai que aujourd'hui, des poissons pêchés arrivés dans des ports, quel que soit le port en France, mais sont d'abord envoyé à Rungis pour ensuite revenir dans les régions?
Ça peut arriver, mais bon, en général...
Une empreinte carbone importante, quand même.
Le travail se fait directement avec les criers. Mais pour répondre à la première partie de votre question, il faut là aussi... Il y a des saisons pour le poisson. Par exemple, pêcher le bar en période de frais, sur les frayères de bar, ça devrait être interdit. Nous, on s'était engagés. Je dis, moi, je ne veux pas avoir de bar dans les magasins au moment du frais, parce qu'autrement, il n'y a pas la reproduction. On s'est engagé à la période où maintenant ça va mieux. Par exemple, sur les thons rouges, on avait arrêté la commercialisation. Donc là, il y a une vraie responsabilité de la part des grands distributeurs, comme il y a une responsabilité de la part des pouvoirs publics. Je rappelle que les députés français en Europe n'ont pas voté non, à l'époque, à la pêche des poissons de grand fond. Il faut aussi que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Donc les choses n'ont pas tellement évolué de ce point de vue-là. Regardez comment il a fallu se battre pour interdire, et encore, je ne crois pas que ce soit complètement le cas, sur la pêche électrique, prônée par les Hollandais.
Bloom, ouais, voilà. Le combat de Bloom, Claire Bouvier,
notamment. C'est profondément anormal. Je pense que là-dessus, de toute façon, ceux qui mettent en marché, s'ils veulent continuer à vendre de la protéine animale, il faut qu'ils soient rassurants pour les consommateurs de ce point de vue-là par rapport à l'éthique et à l'équilibre. Sinon, ce qui va se passer, c'est le mouvement est en route. Il y aura des dénonciations qui seront faites par des grandes ONG de type L214, etc. Et on va avoir des générations de véganes. Donc, ça risque aussi de se payer contre ceux qui mettent en marché. Donc, c'est aussi leur intérêt.
Concernant les produits qui entrent sur le marché français via les accords de libre-échange, Mercosur, TAFTA, CETA, avec des normes différentes, souvent plus laxistes, comment on fait ?
Faut pas. Une enseigne qui veut là-dessus tenir ses engagements, elle doit vendre de la viande française, elle doit commercialiser du lait français, des produits, sauf, c'est sûr que les agrumes, c'est plus compliqué, mais autrement, tout ce qui est disponible sur notre territoire national, il faut pas avoir peur du patriotisme alimentaire là-dessus. Tous les autres pays le font. Si vous allez en Angleterre, là, produit made in UK, ils sont fiers. Eh ben, on doit être, de la même manière, on doit être fiers de nos produits et ça doit montrer l'engagement. Les commerçants, les distributeurs doivent montrer ainsi qu'ils sont solidaires des filières françaises. C'est leur façon aussi de le faire. Donc, moi, je pense que les accords internationaux, peut-être, il faut qu'il y en ait d'état à état pour les grands sujets. Pour ce qui concerne l'alimentaire, il faut prioriser les circuits courts et le local.
Et concernant les emballages plastiques, c'est un autre sujet très important aussi. Et là, dans les hyper, les super, c'est pas ce qui manque.
Oui, alors ça, c'est un gros sujet, les emballages plastiques. Alors, c'est comment on va pouvoir commercialiser des produits, soit en vrac, soit avec d'autres types d'emballages. Alors, je m'intéresse beaucoup à ce sujet. Je travaille sur ce sujet. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Parce que, au fond, une bouteille en plastique, là, j'en ai une dans la main, si on est certain qu'il n'y a pas de transfert de phtalates. Donc déjà, premier cas. Ce qui semble être le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de saloperie qui passe du contenant au contenu. Ça semble être le cas. Et si on s'assure du recyclage de cette bouteille, c'est-à-dire qu'elle est mise en marché, mais on sait qu'elle va être récupérée et recyclée. Je dirais que les choses sont sous contrôle et qu'il ne faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Par exemple, si vous faites des choses avec du bambou, comme ça semble être la mode aujourd'hui, ou en bois, qui vient d'ailleurs. Bon, le bois, ça déforeste. Le bambou, il faut beaucoup d'eau pour le faire pousser, ensuite le transformer. Donc, ce qu'il faut, c'est s'assurer de la recyclabilité. Là, il y a un gros travail à faire. Et en même temps, ce qui est compliqué, c'est dans les autres pays. Parce que si vous regardez le bassin méditerranéen, il faudrait s'assurer aussi que les autres pays du bassin méditerranéen recyclent bien leurs produits. Donc, à ce titre-là, comme on n'est pas sûr de la capacité à recycler des autres pays, je rappelle que le bateau là qui s'est promené, Tara, ils ont fait des prélèvements, en gros, tous les 10 000 nautiques sur le Pacifique, l'océan Indien, l'Atlantique, la Méditerranée. Chaque fois, il y avait des microparticules de plastique.
Et ils viennent de mener cette étude sur les fleuves, d'ailleurs.
Donc, on est confronté à un vrai sujet. Donc il faut pas qu'on substitue le plastique par des produits qui ont plus d'inconvénients, mais il faut absolument en contrôler le recyclage. C'est inadmissible qu'il y ait des produits qui partent dans nos rivières, nos fleuves et dans nos océans. Et il faut après que les entreprises qui mettent en marché du plastique, du contenant en plastique, et qui ne peuvent pas s'assurer de la recyclabilité, ça devrait être interdit. Je pense à certains grands fabricants aussi de soda dans les pays d'Afrique. C'est profondément anormal qu'à ce moment-là, il y ait une mise en marché en disant on se fout du recyclage.
Donc prendre des mesures aussi peut-être politiques.
On n'y arrivera pas. Attendez, l'écologie sans mesures politiques, ça ne marchera jamais si on compte sur la bonne volonté. Voilà. Et puis, il ne devrait pas y avoir de mise en marché parce qu'une bouteille en plastique, là, comme je l'ai, ça se recycle assez bien. Par contre, si vous avez un produit... mesdames, dans vos sacs à main de cosmétiques pour les produits à lèvres,
les produits cosmétiques, les produits ménagers ne sont pas recyclables.
C'est un recyclable. Le contenant est un recyclable. Donc il faudrait là qu'il y ait une loi. Moi, j'ai été administrateur d'éco-emballage et j'ai été dirigeant aussi d'Ecofolio qui recycle le papier. Et à cette époque-là, c'était le même sujet. Il faut que le législateur, autrement on n'y arrivera pas, interdisent la mise en marché d'un contenant qui ne peut pas être recyclé. Donc là-dessus, il faut forcer les choses. Autrement, ceux qui mettent en marché le feront au motif de la praticité et pas de son recyclage. Et après, il y a des pays qui ne le peuvent pas. Et à ce moment-là, les grandes multinationales ont une responsabilité si elles mettent en marché un produit dont on sait qu'il ne va pas être recyclé dans certains pays qui n'ont pour l'instant pas les moyens de le faire.
Donc recycler, on voit aussi que le secteur textile, hein, mode, la mode éthique, les labels éco-responsables travaillent aussi beaucoup. Aujourd'hui, ils commencent à prendre des parts de marché qui intéressent d'ailleurs les grands groupes et toutes les marques.
Hein. Bien sûr. C'est là dans le sens de l'histoire.
Voilà. Consommer moins, mais mieux. Donc c'est ce que d'autres nomment entrée en décroissance. Est-ce politiquement correct et envisageable? En un mot, quel responsable politique prendra le risque d'en appeler à cette mutation?
Consommer mieux, ça ne veut pas dire forcément d'arrêter de consommer, mais consommer différemment. Je connais bien Emery Jacquier, qui est le patron de la CAMIF. Vous savez que c'était cette grande coopérative d'enseignants. Bon, Emery Jacquia, il a repris cette entreprise qui est en bord du dépôt de bilan et il a pris des engagements. Il fait par exemple des petits meubles qui sont co-construits avec des collaborateurs, avec des experts et avec des clients. Ils sont tous made in France. Ils sont tous avec un service après-vente pour au moins 10 ans. Ils valent peut-être un petit peu plus cher qu'un produit qui vient de Chine, mais il y a aussi, il invite à une consommation différente. Il faut qu'on aille vers ce monde-là. Si on va sur, autrement sur un monde de consommation jetable, on en paiera le prix. Vous savez,
la planète ne supportera pas ce.
Ouais, j'ai
cette prédation, c'est ça.
Ouais, Marc Alevi, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un physicien et qui fait des conférences. J'en faisais une avec lui il y a pas très longtemps et il dit depuis après la guerre 14-18, on est dans une civilisation thermo-industrielle avec une croissance de ce qu'il appelle la courbe rouge. On est à la recherche du toujours plus, donc toujours plus de consommation, toujours plus de revendication, toujours plus de progrès économique, technologique, etc. Et lui, il dit, il est fait avec d'autres. Regardez les 1000 scientifiques qui viennent d'inciter à la désobéissance civile.
En signant une pétition.
Moi, quand j'ai lancé Osons Demain avec François Lemarchand et Éric de Kermel, on l'a fait après l'appel des 15 000 scientifiques qui disaient, mais les entreprises, au fond, elles sont le problème, il faut qu'elles deviennent la solution. Ça qui va être intéressant. Et donc Marc Alevi, pour conclure là-dessus, il dit mais si on nourrit toujours cette courbe rouge, on va à la fin de l'humanité. Et donc il faut qu'il y ait une courbe verte qui croise la courbe rouge. Et la courbe verte, c'est les initiatives individuelles, comme dit Pierre Rabhi, comment on prend sa part dedans. Chacun, même si c'est une part modeste, même si c'est la part du colibri qui veut éteindre l'incendie, eh ben il prend sa part. Comment des familles vont changer, comment des entreprises vont s'engager, comment des villes vont s'engager pour qu'une somme des parties fasse un tout meilleur et croise. Et on n'a pas le choix. Je vous invite à lire aussi le livre de Pascal de Mugeur de La Maïf qui dit « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus ». Eh ben, je crois que les entreprises représentant de la société civile, ce sont elles qui vont changer les choses. Elles ont été le problème. Moi, je collabore avec beaucoup d'entreprises, y compris des très grandes, y compris des entreprises internationales, qui se disent au fond, maintenant, on n'a plus le choix. Quand vous voyez que Cargill veut se mettre au bio, par exemple, on se dit qu'il y a quand même...
À partir du moment où il y a un marché. Papin, est-ce qu'on ne peut pas craindre aussi, vu les appétits et la société aussi capitaliste, bien évidemment, est-ce qu'on ne peut pas craindre, là, à nouveau, peut-être sur ce secteur-là, une guerre des prix ?
Écoutez, on est en train d'évoluer vers ce qu'on pourrait appeler le prix responsable. Bien sûr qu'il ne faut pas être dupe, hein, on doit rendre accessible au plus grand nombre. Si les produits bio ou les produits durables étaient réservés à une élite, on ne va pas changer le monde comme ça. Hein. Donc il faudra bien aussi que ces produits-là soient accessibles. Quand on prend par exemple aujourd'hui un litre de lait bio, il vaut 1 euro. Donc ça va. Si on prend un œuf bio, il vaut 5 ou 6 centimes de plus qu'un œuf de poule en batterie. Donc ça va. Donc il faut petit à petit qu'on rende accessible cette façon de produire et donc de consommer au plus grand nombre.
En sachant que je précise, il y a bio et bio et que là aussi, il faut que le consommateur soit un peu informé et vigilant.
Le label AB est pour moi un label référent, contrôlé, etc. Donc il y a cet engagement de prix responsable. Le prix responsable, ça veut dire un prix qui soit respectueux de la filière, qui soit respectueux de la santé, etc. Et de la rémunération du paysan. Il ne doit pas monter jusqu'au ciel, ce prix-là, mais il ne doit pas non plus être dans une recherche systématique du prix à tout prix. Il vaut mieux encore l'encourager à consommer moins. Parce que si on va toujours vers cette recherche du prix à tout prix, regardez, on finit par en payer le prix d'une autre manière.
Donc vous êtes confiant parce que c'est vrai que le secteur de la grande distribution, il y a beaucoup de marques et certaines ne semblent pas s'ouvrir vers une politique aussi vertueuse.
Oui, mais elles y vont parce que d'autres y vont. Et puis regardez ceux qui y avancent. Hein, souvent les marques de distributeurs s'engagent beaucoup plus. Regardez même ce qu'on appelait les hard discount. Comment ils s'engagent aussi. Alors il y en a un des deux là qui est présent au salon de l'agriculture. Oui. Bon, ils vont aussi vers des choses très locales, très beaucoup plus vertueuses, quoi.
Blaise Mahou.
Moi, je voulais qu'on parle aussi des lieux de distribution et d'achat, de l'hypermarché du futur ou de ce qui va remplacer l'hypermarché, puisque le modèle hyper, si j'ai bien compris, n'est plus celui que vous voyez. Je voulais qu'on évoque le cas d'Amazon, Amazon Go, ces magasins qui ont été ouvert l'année dernière aux États-Unis, à San Francisco et New York notamment. Pas de caisse, pas de scan des produits, juste une application à télécharger, des capteurs partout dans le magasin et capable de déceler si on repose un produit sans le mettre dans son panier et on sort et ça paye automatiquement un portique à la sortie. Est-ce que c'est ça le magasin du futur, l'hyper du futur pour vous ?
Non, parce que ce que vous évoquez, ce sont des magasins de dépannage. Vous savez, nous, quand on a fait le choix, quand on a vu Amazon arriver en France, on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Amazon, je rappelle, pour nos auditeurs, c'est 1 000 milliards d'euros de capitalisation boursière aujourd'hui. Hein. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, je crois que Carrefour, qui est notre champion, c'est 17 milliards. Si vous voulez, c'est vrai. Donc, on s'est dit, nous, notre terrain de jeu, c'est le magasin physique. Donc, on va investir pour faire en sorte que les gens soient heureux de faire leurs courses dans le magasin, que les courses, ça peut être un moment joyeux. Donc, on s'est engagé dans une professionnalisation de ce qu'on appelle les métiers du frais, comment faire du bon pain, rematurer de la viande, faire de la charcuterie, vendre du bon vin, avoir du bon poisson, etc. Ce qui n'est pas simple, hein, parce qu'il faut trouver des bons professionnels. Et je vais vous dire, il y a autant de modernité dans la présence d'un bon boucher que dans la présence de la dernière technologie. Et c'est souvent plus dur de trouver un bon boucher que d'acheter la dernière technologie, paradoxalement. Et donc on a fait ça, et ça nous a porté plus loin, ça nous a permis de trouver une résilience. Et de l'autre côté, on s'est dit, on va, avec notre marque, être porteur de valeur aussi. Et donc finalement, alors ça ne veut pas dire qu'on ignore les technologies, parce que bien sûr, il peut y avoir des paiements sans contact, il peut y avoir des caisses rapides, etc. Mais quand même, le lien, vous savez, je parlais de réconciliation. Il y a trois personnes, ou trois éléments dans une seule et même personne. C'est le consommateur, le client et le citoyen. Le consommateur, c'est le produit que je veux. Le client, c'est le magasin où je vais, et le citoyen, c'est le pays où je vis. Et il faut être à même d'être bon sur ces trois éléments. Il faut avoir des bons produits, donc qui correspondent à ce que j'évoquais tout à l'heure, santé, planète, etc. Dans un magasin où on va créer du lien, ça compte, par les temps qui courent, parce que bizarrement, plus il y a de technologie, plus il y a de connexion, moins il y a de lien. Et les gens sont à la recherche de lien. Donc nous, on fait de l'accueil dans les magasins. Et le citoyen, c'est s'engager dans l'intérêt général, dans les territoires, notamment dans les territoires, en portant une implication dans les territoires. Et en faisant ça, on a notre résilience. Et on n'a pas besoin de faire Amazon. Je ne suis pas sûr que le projet, même le projet de société, d'être assis dans un canapé pour commander derrière un ordinateur des produits dont on va être livré dans 2 heures par Amazon Go ou Prime, je sais pas, ou dans 2 jours, ça soit un modèle de société dont on veut. Moi, je n'ai pas envie de ça. Je préfère que...
C'est pas en adéquation avec le système circuit court, les rencontres, l'entraide.
Regardez le salon, là. Pourquoi les gens, ils ne le regardent pas sur un ordinateur ? On pourrait, après tout, faire... Mais non, parce que là, les gens, ils consomment, ils voient, ils parlent, ça crée du lien, ça crée une ambiance. Et c'est ça aussi qu'on fait. Là.
Ces nouveaux lieux de consommation, ils sont en ville, ils vont être encore plus en ville. On a 75% de la population qui sera urbaine à l'horizon 2030-2040. Oui. Mais aussi les lieux de production, ça c'est intéressant. On voit qu'aujourd'hui en ville se développent des jardins partagés, se développent des fermes
urbaine.
Sur des toitures de magasins ou d'appartements. Est-ce que vous croyez au développement de l'agriculture urbaine ? Sous quelle forme ? Et est-ce que là aussi la grande distribution peut jouer un rôle pour accompagner, pousser, piloter des projets d'agriculture urbaine vraiment ambitieux et pas juste à la mode ou anecdotique ?
Alors il y a plein de projets sur l'agriculture urbaine ou sur l'agriculture aussi en container, etc. Moi je crois plus aussi à la ceinture végétale autour des métropoles. C'est vrai que ça, c'est mettre des fermes. Il y avait Maxime de Rostolan notamment qui était fondateur de Ferme d'Avenir. Et on a beaucoup travaillé avec lui sur cette idée de mettre autour des grandes villes, par exemple moi qui suis pas loin de la région nantaise, à Nantes. Il y a tout le maraîchage autour de la ville de Nantes, c'est pas la peine d'aller. On produit tout ce qu'il faut pour les métropoles nantaises et bretonnes. Hein,
donc le modèle d'avenir, il est là aussi.
Moi, je pense que le modèle d'avenir, il est là aussi. Et puis alors, par contre, les hyper, les grands hyper au bout des grands lotissements pour les grandes familles. Regardez ce qui se passe dans les métropoles, c'est des villes de gens seuls. Ceux qui vivent dans nos zones urbaines sont des espèces d'individualistes grégaires. Des jeunes d'ailleurs, regardez. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui disent faire des enfants, ce que ça va. Il y a tellement d'inquiétudes sur l'avenir du monde. Donc, les grandes familles qui allaient dans les grands hyper, dans les métropoles, c'est des petites familles qui vont plus dans des magasins de proximité. Donc, les modèles sont en train de changer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre contre cette urbanisation de la France qui va provoquer d'autres déséquilibres sociaux. Hein. Tu regardais notamment les gilets jaunes. Bien sûr qu'il y a une revendication sur le pouvoir d'achat, mais honnêtement, le principal sentiment, c'est le sentiment d'abandon. Parce que quand on est dans certaines petites villes, aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde, moi qui suis de la campagne aussi, hein, campagne vendéenne du Bocage, je vois les gens se disent « mais tout se passe à la ville ». Qui siphonne aujourd'hui.
Voire même à Paris, on renoue avec Paris, le désert français, c'est ça ?
Voilà. Alors donc il faut se battre contre ça. Il faut essayer de recréer des dynamiques territoriales pour innover aussi à la campagne. Donc ça, c'est un fait. Mais alors, si on regarde les tendances, voilà, il va y avoir une mutation des grands hyper dans les petites villes ou les moyennes villes, vers en effet des magasins plus de proximité dans les métropoles.
Serge Papin.
Et des métiers de bouche aussi qui se développent, y compris la restauration.
Dernière question, question plus personnelle, mais néanmoins environnementale. Vous êtes basé, donc on le disait, en Vendée. Brétignolles est une ville que vous connaissez parfaitement bien. Il y a un projet de construction d'un port de plaisance qui fait grand bruit déjà depuis quelques temps, en déclenchant une opposition pour protéger l'écosystème marin, lutter contre la bétonisation de la côte. Quelle est votre position ?
Moi, je suis totalement contre. Je trouve que Brétignolles n'a pas besoin d'un port et que c'est une dune magnifique et qu'il y a un risque aussi. Hein. Regardez ce qui s'est passé avec Cynthia. L'eau, elle est rentrée par le lait, elle est rentrée par la rivière. C'est des projets qui sont d'une autre époque. Ça me fait penser un peu à Notre-Dame-des-Landes, voilà, qui était un projet un peu de l'ancienne époque.
Oui, d'ailleurs, on parle de ZAD hein, qui se mettrait en place sur place.
Il y a une ZAD qui est en place, bon, plutôt une ZAD bon enfant, mais qui permet pour l'instant d'arrêter. Alors, en plus, c'est un sujet clivant. Moi, ce qui me choque, qui me gêne un peu, c'est que Brétignolles, qui est ce petit ville tellement jolie, petit bourg au bord de mer, au bord de l'Atlantique, eh ben, tout le monde maintenant s'oppose. Vous vous rendez compte, dans les familles, on ne peut plus en parler. Parce qu'il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, c'est clivant. Donc, ne serait-ce qu'au nom de la réconciliation, il faudrait...
Au-delà des écosystèmes, réconciliation, tout cas les deux mêlés.
Ça pourrait être un élément de choix.
Merci Serge Papin.
Merci à vous.
Et je cite quand même la phrase fétiche hein, que vous nous avez confiée. « Vivre mieux aujourd'hui consiste à échapper au développement du progrès ». C'est de Sylvain Tesson. Et ça vous habite. Hein.
Oui.
Merci à vous. Et je cite également votre dernier livre commis avec Perico Legas chez Solar Édition, du panier à l'assiette. Blaise Mao, on retrouve votre article sur Stéphanie Maubé, bergère dans le Cotentin, dans la revue Ouzbek Erika. Émilie Torjman, merci à vous. OGM Caché, c'est votre article que vous nous proposez dans le Parisien, sur le site également. Et je n'oublie pas notre autre partenaire, Combini News, partenaire de cette coalition hashtag Sauver le Présent, dossier complet sur l'agriculture à votre disposition. Toutes les infos, les compléments sont également sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et sur les sites des partenaires. Réécoute, téléchargement, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur notre page Facebook. Durant toute cette période de carême, hein, je précise, c'est désormais le samedi à 20h que vous nous retrouvez, et ce jusqu'au 4 avril. Et la semaine prochaine, à l'occasion du retour de la goélette Tara à Paris, nous nous intéresserons à la pollution plastique dans les fleuves et nous serons avec Eric Orsena, parrain de l'expédition, et avec le biologiste et océanographe Gilles Boeuf. Et dans un instant, suite de vos programmes bien sûr sur France Culture, place aux fictions, samedi noir, sous la houlette de Blandine Masson. Merci à tous.